à vous depuis Abidjan, Kinshasa, où N'Djamena et Kabadou avec vous depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique, où il est 18h05 en temps universel et 13h05 ici à Washington. À votre avis, se penche ce jeudi 25 janvier sur la médecine traditionnelle, qui est la somme des connaissances et pratiques pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales. Elle est utilisée presque partout sur le continent. Que pensez-vous de cette médecine? Faites-vous appel à la médecine dite traditionnelle. Nous allons en discuter dans votre émission interactive pendant près de 30 minutes. Pour participer, c'est encore possible. Un seul numéro, le 001 202 205 26 33. Et c'est ce qu'a fait notre première auditrice qui est aussi une experte en la matière. Il s'agit de Shams. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous utilisez encore la médecine traditionnelle et la particularité, c'est que vous êtes ici, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez décidé de continuer à pratiquer ce savoir ancestral qui vous a été transmis de génération en génération?
Pour ma part, ça a toujours été une passion, sauf que je ne l'utilisais pas réellement, sauf en cas de besoin extrême. Et depuis quelques années, j'apprends encore et je fais davantage de découvertes concernant les plantes. Et de plus en plus, j'utilise essentiellement ça, même en cas de maladie, avant de me rendre à l'hôpital, sauf quand ce sont des maladies qui nécessitent réellement des examens. Dans le cas échéant, non, je préfère la médecine traditionnelle.
Alors, médecine traditionnelle, vous avez parlé de passion. Vous êtes dans un pays où la médecine est quand même assez développée, la médecine générale. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur les plantes et privilégier plutôt ce savoir-faire-là?
De plus en plus, de personnes préfèrent la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Il y a encore ces personnes-là qui existent.
Oui, c'est vrai. Et dans votre cas,
ils sont en train de se détourner de la médecine moderne.
Et dans votre cas?
Dans mon cas, j'ai affaire justement à ces personnes-là qui demandent, soit pour des questions de sexualité ou pour des questions, psychologique ou même physique. Il y a vraiment plusieurs cas. C'est vraiment au cas par cas.
Et qu'est-ce qu'apportent ces plantes, justement, dans les différents cas que vous avez pu citer, que ce soit la sexologie, la sexualité, pardon, et la psychologie?
Le traitement traditionnel, on hésite en général de dire qu'ils vont traiter. On préfère utiliser le verbe aider. Donc, on préfère dire ils vont tel produit ou telle plante pourra vous aider à traiter votre problème. On prend toujours une marge quant à la réussite du traitement. Mais très souvent, ça traite en profondeur même, je dirais.
Alors avant que vous nous donniez les détails, on va donner la parole à un autre auditeur. Il s'agit de Mamadou Dia. Bonsoir. Mamadou Dia, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Vous êtes également aux États-Unis et vous faites des allers-retours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi?
Donc j'ai trouvé tout simplement qu'il est temps que la médecine traditionnelle soit valorisée, comme nous sommes en Occident et on voit que tout le monde, il y a la ruée vers les plantes, surtout médicinales, les plantes nourrissantes, parce que cela va de main en main, parce que la nutrition, c'est aussi la santé. En Afrique, et surtout là où les gens en ont vraiment besoin, ils n'ont pas le moyen surtout de faire recours à la médecine moderne. Donc, pourquoi ne pas revoir la médecine traditionnelle et surtout les plantes qui sont là-bas, qui ont servi pendant des siècles, alors les revaloriser. Alors qu'en Occident, il y a beaucoup plus d'informations concernant ces plantes-là que quand on se trouve en Afrique.
Donc, alors, cette plante-là, appelons-la par son nom, il faut parler du moringa?
Bon, moi, je parle du moringa. Le moringa est un exemple parmi tant d'autres. Bon, c'est le moringa qui a eu mon focus. J'ai beaucoup lu et appris sur le moringa, et le moringa est une plante qui est facilement générée en Afrique, qui pousse partout en Afrique d'ailleurs, et c'est beaucoup même utilisé. Mais il se trouve que les gens ne connaissaient pas beaucoup les bénéfices que le moringa pouvait apporter.
Alors je me permets de préciser qu'elle coûte très cher en produits dérivés hein, en Occident, donc c'est très intéressant que vous partiez encore le développer sur place, donc au Mali. Et quelles propriétés cette plante a ?
Oui, cette plante est très, très riche en vitamines, dans toutes les vitamines dont le corps humain a besoin. Et puis, ça, c'est beaucoup riche aussi en acides aminés et oui, tous les minéraux dont le corps humain a besoin. C'est surtout la malnutrition des enfants aigus est mieux traitée par le moringa que n'importe quel autre médicament que moi je connais. Parce que nous avons initié un cas d'étude en 2012. Et nous avons pu soigner beaucoup d'enfants dans un village autour du Polikoro. Alors donc, cela nous a beaucoup encouragés à continuer avec le moringa. Maintenant, on a beaucoup propagé et puis introduit cela au niveau de la population en général. Et le moringa est vraiment populaire maintenant, au Mali surtout, et puis voire même en Afrique de l'Ouest.
Alors, est-ce qu'il y a un savoir-faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent la plante, mais est-ce que vous avez des conseils, une façon de le consommer qui pourrait aider à moindre coût pour les auditeurs qui nous écoutent ?
Bien sûr, le moringa est très populaire, ça pousse partout, mais il y a une façon de traiter le moringa, surtout, et de faire ça dans un endroit très hygiénique. Je conseillerais l'approche hygiénique et la consommation du moringa. Parce que d'autres pensent qu'il faut le jeter partout au soleil, ou qu'il faut le jeter partout, l'écraser, ou bien recueillir tout simplement et mettre ça dans la marmite. Non, il y a une façon de traiter ça. Il faut l'approcher très hygiéniquement, surtout laver les feuilles, les faire sécher dans un endroit propre, bien ventilé, pour éviter les moisissures et consorts, et puis piler ça dans un endroit très sain et très propre pour consommer après. Mais ne pas aller cueillir n'importe quel moringa qui pousse n'importe où, à cause de probablement à cause de l'endroit, de l'environnement où le moringa pousse. Donc, ne pas consommer ça au hasard. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, j'exporte des États-Unis vers le Mali des ustensiles qui me servent à traiter le moringa sur place là-bas, et puis à les emballer d'une façon saine pour ensuite mettre ça à la disposition du public.
Est-ce que vous avez peut-être un site où les auditeurs peuvent vous suivre ou quelque chose, ou des coopératives, des foires qui distribuent ce moringa au Mali ?
Oui, il y a des coopératives, il y a des ONG d'ailleurs qui sont impliquées. Mais moi, j'ai commencé à travailler un peu avec la médecine traditionnelle, le département de la médecine traditionnelle au Mali. J'ai été voir la célèbre professeure Rokia Sanogo pour une approche plus saine de la chose, parce que je compte distribuer ça sur le marché africain.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience. Rokia Sanogo fait aussi partie des personnes que nous allons joindre d'ici la fin de l'émission. On va donner la parole à un autre auditeur. Il se trouve au Mali. Il s'agit de Bakary Keita. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous utilisez vous-même la médecine traditionnelle, comme on a pu l'entendre avant ?
Bon, en Afrique, ici, la médecine traditionnelle est incontournable. Moi, je l'utilise, hein, parce que souvent, elle a quand même des avantages, ça, il ne faut pas l'ignorer. D'abord, le coût aussi n'est pas tellement élevé.
Oui.
Donc, si vous êtes malade, là, vous pouvez rentrer tout de suite en bourse, couper quelques feuilles, vous préparez ensuite, le mal est parti. Est-ce que vous voyez ?
Alors, donc, ce que vous dites, c'est intéressant, parce qu'on peut aller en brousse, couper des feuilles, mais quelque part, est-ce que vous savez comment les utiliser ? Parce que pour nous, ne maîtrisons pas...
Je vais en venir. La médecine traditionnelle, c'est la valeur même propre aux Africains. Mais seulement, il y a quelques bémols, par exemple, le dosage, par exemple. Le dosage, c'est-à-dire, n'est pas tellement quand même édifié. Et aussi, il n'y a pas aussi une date de péremption aussi. Ça, c'est peut-être le côté négatif. Hein. Sinon, la médecine traditionnelle, vraiment, en Afrique, là, elle est quand même incontournable. Et elle joue vraiment pas mal de rôle, quoi.
Alors, certaines personnes s'inquiètent de la voir également disparaître au détriment de la médecine générale, car beaucoup de personnes sont en ville et du coup ont moins accès à tout ce que vous dites, aux arbres et à ce genre de médecine, finalement.
Oui, effectivement. Même, par exemple, dans le marché, je suis à Calavancroix, par exemple, dans le marché de Calavancroix, c'est-à-dire on vend, par exemple, quelques tas de feuilles, là. Ouais, même si la bourse est tellement éloignée, mais on en trouve au marché. Mais aujourd'hui, ça, il ne faut pas quand même se leurrer. La médecine occidentale en train quand même de supplanter vraiment la médecine africaine. Mais nous aussi, on ne doit pas vraiment jeter tout ce qui est africain. On doit essayer de faire aussi sa part des choses. Ce qui est bon, on prend ça. Donc, la médecine traditionnelle, vraiment, est bien, mais il doit venir quand même. La médecine occidentale doit venir en appoint, vraiment, de la médecine traditionnelle.
Merci beaucoup, Bakary Keïta, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On va donner la parole au docteur Eric Gbogdosou, j'espère que je prononce bien, de l'ONG Promotion de la médecine traditionnelle. C'est donc à Dakar que nous nous dirigeons maintenant. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour.
Alors, merci d'avoir donné votre temps pour notre émission et on a envie de vous poser cette question. On a pu entendre que la médecine traditionnelle commençait à disparaître. Est-ce que c'est votre ressenti?
Oui, disons que, vous savez, il y a un sage africain qui dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est tout aussi vrai au niveau de ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle depuis la nuit des temps. Mais notre rôle en tant que prometra que j'ai l'honneur de servir, c'est justement de réhabiliter ce qui se perd, de faire des études sérieuses pour voir dans ce qui se pratique les choses qui sont positives pour en faire la promotion et celles qui sont pas positives pour faire arrêter leur utilisation. Donc je pense que cette médecine traditionnelle, par rapport à ce qui se fait actuellement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses qui sont très positives et qui me font penser que la médecine traditionnelle reste l'or vert de demain.
L'or vert de demain, vous pensez?
Oui, parce que vous savez, hier, c'est l'or jaune qui faisait courir le monde. On a même créé des pays qu'on appelle Gold Coast. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'or noir qui fait sa loi, mais demain, c'est l'or vert. Parce que vous savez, les médicaments modernes, les médicaments, le monde de plus en plus se rend compte des effets toxiques, des effets secondaires, et le besoin exprimé même au niveau du Nord au retour à la nature est de plus en plus cuisant. Donc je pense que nous avons, au niveau de nos recherches que nous faisons, remarqué qu'effectivement, il y a même des affections pour lesquelles la science conventionnelle est limitée et qui trouvent des solutions dans cette médecine traditionnelle.
C'est
et
si
vous
vrai.
Le savez aussi, le système même qui gère la médecine conventionnelle, qu'on appelle le système cartésien, je pense que c'est un véritable frein pour le développement des sciences humaines. Vous le savez mieux que moi, c'est voilà un système qui n'a rien pour mesurer la vie, rien pour connaître l'émotion, l'intuition, l'amour. Ces valeurs humaines-là qui sont extrêmement importantes, quand vous enlevez ça d'un système, il ne reste qu'une coque. Donc le monde entier a besoin d'une médecine plus holistique et la médecine traditionnelle, lorsqu'elle est bien fouiller, puis apporter des solutions extrêmement importantes à notre monde en pleine mutation.
Alors, notre monde en pleine mutation, vous avez un cabinet à Dakar, un cabinet avec toutes les caractéristiques d'un cabinet traditionnel. Est-ce que votre cabinet général, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez beaucoup de clientèle?
Bon, disons que dans mon cabinet à Dakar, je suis médecin, donc c'est un cabinet de médecine moderne. Mais parallèlement, j'ai construit dans le cadre de Prometra un centre de médecine traditionnelle africaine qui est ouvert à 150 guérisseurs, 450 guérisseurs. Et dans ce centre expérimental de médecine traditionnelle, j'y ai construit un hôpital moderne avec un médecin, un laboratoire équipé. Si bien que quand le médecin vient, le malade vient dans ce centre, il va d'abord dans l'hôpital conventionnel, appelons ça comme ça. Et le médecin n'a pas le droit de faire la thérapeutique. Son rôle, c'est de faire un diagnostic bien fixé, clinique et paraclinique, et le malade va dans les salles de soins tenues par les guérisseurs qui sont les seuls habilités à fournir des traitements. Eh bien, lorsque le guérisseur finit son traitement, le malade revient au niveau de la structure conventionnelle pour remesurer les mêmes données cliniques et paracliniques, et on peut apprécier. Ce centre, je l'ai ouvert en 89. Nous recevons à peu près 5000 patients par an, et les évaluations ont montré que ce centre, qui n'a jamais renvoyé de patients, quelle que soit la maladie, a 65% de guérison complète et 25% d'amélioration quantifiable.
Mais ce sont des chiffres non négligeables, effectivement. Restez avec nous en ligne. On va donner la parole à un auditeur en Guinée-Conakry, voir un peu quel est son ressenti par rapport à ce qu'on vient d'entendre et quelle est son expérience depuis Conakry. Il s'agit d'Abdoul Gadiri Diallo. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous allez bien?
Oui, et vous-même?
Ok, ça va, merci.
Alors, quel est votre regard sur l'actualité, sur le sujet du jour?
Mon regard envers la médecine traditionnelle, je pense que c'est, comme je l'ai dit dans mon intervention, dans mon commentaire, que la médecine traditionnelle est quelque chose qui est lié à la culture africaine. Mais de nos jours, c'est l'État en question qui devait encadrer ces médecins traditionnels. Parce que je vais prendre un exemple. En Guinée, j'avais vu ici un Nigérian qui était venu ici avec des produits qui pouvaient nettoyer les dents, les caries et tant d'autres. Beaucoup de gens s'intéressaient à ces produits, mais moi, en personnel, j'étais venu, je voulais acheter, mais j'avais des doutes parce que c'est des choses que l'État doit contrôler. Par exemple, si l'État voit que les personnes sont intéressées à ces produits, ils doivent contrôler, ils doivent regarder est-ce que ça ne peut pas être dangereux pour la population ou autre. Beaucoup de personnes achetaient parce que, vous savez, les caries, surtout les dents, c'est quelque chose que les gens ont honte de rire à cause des caries et tant d'autres. Moi, j'ai acheté, mais je n'ai pas utilisé parce que je me disais que est-ce que si je ne prends pas ça, ça ne va pas lever mes dents et autres. La médecine traditionnelle de nos jours, parce que...
Je reprends, grâce à la médecine traditionnelle, vous avez pu soigner vos dents?
Bon, il y avait un Nigérian qui avait des produits pour soigner les dents. Mais moi, j'avais accepté. Mais au final, j'avais des inquiétudes. Est-ce que si je prends ça, ça va nettoyer ou bien? Parce que vous savez, les médecines traditionnelles peuvent faire beaucoup de choses. Il avait un enfant avec lui. Il faisait des trucs. Il lavait ses dents propres. Mais j'avais des doutes. Je pense que c'est des choses qui doivent être contrôlées par l'État.
Oui.
Si c'est contrôlé par l'État, ça peut apporter beaucoup de solutions. Je ne sais pas si vous avez suivi,
oui,
en Guinée, le colonel Thiébaut avait pris ici une guérisseur traditionnelle là, qui donnait aux femmes stériles, qui disait aux femmes stériles que lui, quand elle lui donne des médicaments, elle pouvait être enceinte. Au final, les femmes là devaient être enceintes de 9 de 1 an à 2 ans. Ils disent, elle leur disait de ne pas aller à l'hôpital, sinon si elle part à l'hôpital, les médecins vont leur dire qu'il n'y a rien. Et au final, ça a trouvé que c'est la même chose. Les femmes là partaient dans les dispensaires, dans les centres de santé, et on leur disait que non, il n'y avait rien dans les ventres.
Ah bon?
Vous comprenez, c'est les femmes que la femme là avait dit que si elles prenaient ces médicaments là, elles vont être enceintes, mais si elles partent dans les centres de santé et on fait l'échographie, on trouve qu'il n'y a rien dans leur ventre. Alors que quand elles prennent les médicaments qu'on leur a donné là, il y a des remis dans leur ventre.
Donc elles pensaient qu'elles avaient juste le ventre ballonné, c'est ça, hein?
Voilà, il avait juste les ventres ballonnés. C'est tout récemment que le colonel Devereaux les a pris la femme. La femme a reconnu les faits. Vous voyez, si
oui.
C'est contrôlé par l'État, ça peut aider beaucoup de gens. Mais si c'est pas contrôlé par l'État, ça peut nuire encore à beaucoup de personnes.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Abdoul Gadiri Diallo, vous souhaite une bonne soirée. Sur la toile, on a également des commentaires. On a Machekiti qui dit « C'est la seule pratique que j'utilise et qui me convient, bien que le problème vienne parfois des dosages. » On a également Bigoula Dame Sergio qui de N'Djamena explique « La médecine traditionnelle est très efficace si seulement elle est faite par ceux qui connaissent réellement la nature. » Qu'en pense notre experte Rokia Sanogo, directrice générale de la médecine traditionnelle au Mali? Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pu entendre plusieurs avis divergents.
Oui, j'ai entendu les interventions.
Oui.
Je vous remercie et je vous dis que moi, je suis enseignant-chercheur en pharmacie.
Oui.
Donc, le chef du département médecine traditionnelle de l'Institut national de recherche en santé publique au sein du ministère de la Santé au Mali.
Donc vous êtes plus qu'adéquat
de pouvoir
répondre.
De l'Organisation Ouest Africaine de Santé qui a un programme médecine traditionnelle et expert de l'OMS Afro pour la médecine traditionnelle. Et donc la médecine traditionnelle, je vous dis à votre question qu'elle est plus qu'actuelle, vivante, premier recours des populations pour les soins de santé primaires. Et cette médecine traditionnelle comprend les praticiens, les pratiques et les produits. Et moi, j'ai dit que la médecine traditionnelle, c'est notre santé, c'est notre culture et notre futur. Et aujourd'hui, nous, à notre niveau, nous mettons la science au service de la médecine traditionnelle pour mettre au point des médicaments issus de cette pharmacopée, médicaments qui ont fait tout le processus de recherche, qui, quand on connaît la toxicité, nous connaissons l'efficacité et la qualité, et la dose n'est pas un problème parce que nous faisons la recherche pharmaceutique. Et là où je vous parle au Mali, on a 7 médicaments issus de la recherche qui figurent sur la liste des médicaments essentiels au niveau du ministère de la Santé. Et donc, nous avons une approche, c'est l'approche de la collaboration entre les deux systèmes.
Parce et ça vous, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie.
Accessible aux populations.
Professeur, est-ce que c'est en bonne voie? Est-ce que c'est en bonne voie de travailler de façon collégiale avec la médecine générale pour fournir des médicaments qui allient les deux savoirs?
C'est ce que je suis en train de vous dire, que la recherche a permis de mettre au point des médicaments partant de la pharmacopée traditionnelle et qui figurent aujourd'hui sur la liste des médicaments essentiels. Et présentement, nous avons une convention au Mali avec la pharmacie populaire du Mali qui distribue un sirop antitussive sur toute l'étendue du Mali.
Mais c'est important que vous le précisiez parce qu'on a fait une émission il y a quelques jours et il y a encore des gens qui achètent des médicaments contrefaits parce qu'ils disent que c'est moins cher. D'où la question.
Voilà, moi, ce que je suis en train de dire, nous sommes structure du ministère de la Santé.
Oui, et pour vous trouver, est-ce que c'est facile?
Nous travaillons pour la sécurité des patients.
Oui.
Et nous faisons la distribution de nos produits à travers les structures professionnelles pour éviter que nos médicaments tombent dans les mains de gens qui ne connaissent pas.
Très bien, mais c'est déjà la fin de l'émission malheureusement et on a envie de savoir si ça se trouve dans les pharmacies très facilement. On va chercher à travers votre nom, Rokia Sanogo, pour les auditeurs qui ont suivi. Merci à vous, merci à tous nos invités, à toutes les personnes qui ont participé, à l'équipe technique, à Georges Léonard Sagnot, merci. Et dans quelques instants, une nouvelle édition, Le Monde Aujourd'hui, présentée par Abdourahmane Dia.